VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 25 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord les titres. Au Niger, le régime militaire qualifie de nouvelle étape vers la souveraineté l'annonce du retrait prochain des soldats français par Emmanuel Macron. Niamey interdit aussi son espace aérien aux avions français. Au Bénin, des familles inconsolables au lendemain de l'incendie d'un dépôt de carburant illégal qui a fait 34 morts. En Somalie, le bilan monte à 21 morts dans l'attentat suicide de samedi. La perte du Nagorno-Karabakh précipite l'éloignement de l'Arménie de Moscou. Deuxième sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique autour du président Biden aujourd'hui et demain. Espace, la NASA a récupéré en trésor le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Niger, le régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État fin juillet, a salué dimanche soir l'annonce par Emmanuel Macron du retrait prochain des soldats français déployés dans le pays et le départ de l'ambassadeur français comme une nouvelle étape vers la souveraineté. Ce dimanche, nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien, lit-on dans un communiqué des militaires au pouvoir, lu à la télévision nationale. Par ailleurs, le régime militaire au pouvoir au Niger a interdit son espace aérien aux avions français. Un nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Paris et Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, indique un message aux navigants aériens publié sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. En outre, l'espace aérien reste fermé pour tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux, sauf autorisation spéciale des autorités, poursuit ce message daté de samedi soir. Air France a simplement indiqué en réponse qu'elle ne survole pas l'espace aérien du Niger. L'entreprise française principale compagnie aérienne reliant l'Europe et l'Afrique a par ailleurs suspendu jusqu'à nouvel ordre depuis le 7 août ses vols à destination de Niamey. Depuis le coup d'État, la France répète qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des militaires qui ont pris le pouvoir et que son interlocuteur reste le président élu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le 26 juillet.
Au Mali, selon des sources militaires et des secours cités hier par l'AFP, l'avion qui s'est écrasé samedi lors d'un atterrissage à Gao dans le nord du pays appartenait à l'armée malienne et transportait notamment des militaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais le bilan humain et matériel est lourd, ont affirmé des sources aéroportuaires et diplomatiques, sans s'avancer plus sur le nombre de victimes. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, a annoncé hier qu'au moins 34 personnes, dont deux bébés, ont été tuées la veille dans l'incendie d'un dépôt de carburant de contrebande dans la ville méridionale de Semepoji, près de la frontière avec le Nigeria. 20 personnes ont en outre été blessées, certaines grièvement et admise à l'hôpital, a-t-il précisé. Les circonstances exactes de l'incendie n'étaient pas claires à ce stade. Le Nigeria est un producteur majeur de pétrole et de gaz, et la contrebande de carburant est fréquente le long de ses frontières, en particulier lorsque le gouvernement octroyait des subventions pour maintenir des prix bas. En Somalie, le bilan de l'attentat suicide de samedi dans le centre du pays s'est alourdi à 21 morts. Après la découverte de nouveaux corps dans les décombres de bâtiments soufflés par l'explosion, a indiqué dimanche la police. Mohamed Oumfa.
L'attentat qui s'est produit au niveau d'un checkpoint dans la localité de Belédouéné a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentour, dont certains se sont effondrés. En dehors des morts, au moins 45 personnes ont été blessées dans cette attaque qui n'a pas été revendiquée. Elle avait pour cible un quartier animé abritant des commerces et des immeubles résidentiels. Après l'attaque, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a réitéré son engagement à éliminer les islamistes radicaux Shebab qui mènent une insurrection dans le pays. Cette attaque survient au moment où le gouvernement somalien admet avoir subi plusieurs revers importants dans son offensive contre les islamistes radicaux Shebab. Mogadiscio a demandé cette semaine à l'ONU un report de 3 mois du retrait des 3000 soldats de la mission de l'Union africaine de transition en Somalie, prévue d'ici fin septembre. Le chef de l'ADMIS a condamné l'attaque, affirmant qu'elle a été perpétrée pour détourner l'attention des pertes subies par les Shebab après l'offensive lancée par Mogadiscio l'an dernier.
Le président français Emmanuel Macron a estimé dimanche soir que la France faisait sa part en matière d'accueil de migrants en réponse au pape François qui avait eu ces derniers jours à Marseille des mots très durs sur ce sujet à l'égard des dirigeants européens. Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence, mais nous Français nous faisons notre part, a déclaré le président Macron lors d'une interview à la télévision. Réagissant à la vague d'arrivée massive de migrants sur l'île italienne de Lampedusa la semaine dernière, M. Macron a appelé à ne pas laisser les Italiens seuls, se faisant le promoteur d'une réponse européenne pour une approche cohérente avec les pays d'origine et les pays de transit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden organise ce lundi et demain mardi le deuxième sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique, quasiment un an, jour pour jour, après la première édition qui avait aussi eu lieu à Washington. Les détails avec Rosine Munezero.
Joe Biden sort le grand jeu pour les dirigeants des îles du Pacifique, espérant les arracher à la force d'attraction de la Chine. L'exécutif américain doit annoncer à cette occasion, selon de hauts responsables, une empreinte diplomatique plus forte, des projets d'infrastructure et une coopération maritime renforcée pour lutter en particulier contre la pêche illégale. Le Forum des îles du Pacifique regroupe 18 États et territoires disséminés dans l'océan Pacifique. Pour ce sommet, l'exécutif américain a préparé un programme foisonnant qui commencera sur une note sportive. Les dirigeants invités aux États-Unis ont été convoyés dimanche en train jusqu'à la ville portuaire de Baltimore, où ils étaient les invités d'honneur d'un match de l'équipe de football américain locale, les Ravens. Des réunions et un déjeuner avec Joe Biden sont prévus aujourd'hui, puis jusqu'à mardi, plusieurs entretiens avec des ministres sur le climat et l'économie, ainsi que des entrevues au Congrès.
La Russie a mené une attaque massive contre la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon l'armée de ce pays. Les autorités font état lundi matin d'une blessée et de dégâts importants, tandis que Moscou affirme de son côté avoir abattu plusieurs drones lancés par Kiev au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et du nord-ouest de la mer Noire. Les attaques se sont multipliées dans la région d'Odessa depuis l'abandon au mois de juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production. Le premier ministre arménien a annoncé hier un revirement d'alliance tournant le dos à Moscou après l'invasion du Nagorno-Karabakh par l'Azerbaïdjan et rebattant les cartes de l'influence russe dans le Caucase. Les précisions d'Eric Manirakidza.
L'annonce de dimanche confirme un éloignement grandissant depuis des mois. L'Arménie avait refusé en janvier d'accueillir des manœuvres de l'Organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire chapeautée par la Russie, et vient de mener avec les États-Unis ce mois-ci des exercices militaires aux grandes dames des Russes. L'offensive Nagorno-Karabakh a précipité son basculement hors de la sphère d'influence de Moscou. La Russie est centrale dans ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est elle affirmant son rôle de puissance régionale qui avait parrainé l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin aux précédentes hostilités en 2020. Moscou avait déployé sur place des soldats de la paix russe qui n'ont pas empêché l'invasion éclair du Nagorno-Karabakh par les troupes de Bakou cette semaine.
Les États-Unis pourront-ils payer leurs fonctionnaires la semaine prochaine? La première économie du monde fait de nouveau face à la menace d'une paralysie de son administration à cause d'un blocage politique 4 mois après avoir frôlé le défaut de paiement. Espace 7 ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex a accompli sa mission, livrée à l'unanimité à l'humanité un trésor, le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace et le premier par la NASA. La capsule contenant l'échantillon prélevé en 2020 sur l'astéroïde Bennu a atterri dimanche dans le désert de l'État de l'Utah aux États-Unis. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La start-up agricole ghanéenne Complete Farmer affirme avoir mobilisé 10,4 millions de dollars auprès d'un consortium d'investisseurs pour faciliter l'expansion de ses opérations. L'Agritech affirme avoir rassemblé plus de 12 000 agriculteurs ghanéens sur sa plateforme. Elle propose des intrants, une expertise technique et des opportunités de marché. Le FMI et la Banque mondiale ont annoncé maintenir la tenue de leur assemblée annuelle à Marrakech du 9 au 15 octobre après une évaluation de la capacité d'accueil du pays depuis le séisme dévastateur du 8 septembre. Le FMI avait annoncé le 15 septembre avoir conclu un accord de 1,3 milliard de dollars avec le Maroc pour renforcer la résilience du pays aux catastrophes naturelles. La Chambre africaine de l'énergie organisera la Semaine africaine de l'énergie 2023 à Cape Town le mois prochain. Cet événement phare annuel rassemble des personnalités du monde de l'énergie en Afrique, des investisseurs mondiaux et des cadres des secteurs publics et privés. La Semaine africaine de l'énergie vise à mettre fin à la pauvreté énergétique en Afrique d'ici 2030.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Nous commençons avec la CAN Makarana 2023. On connaît désormais la composition des groupes.
Oui, et c'est à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu hier dimanche en direct sur la télévision nationale du Bénin. Et chez les seniors, le Bénin pays hôte hérite de la poule A en compagnie du Mali, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée du tenant du titre, la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo et du Sénégal. Et le groupe C, le Burkina Faso, le Niger et 2 pays invités, le Canada et les États-Unis. Dans la catégorie des super seniors, la poule A comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Canada et la France. Et puis, la poule B, le Mali, tenant du titre, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Niger. La cérémonie d'ouverture prévue ce lundi est finalement décalée au mardi.
Du football à présent, ce week-end, quelques matchs en retard du deuxième tour aller des interclubs de la CAF ont été joués.
Et en Ligue des Champions, le Al Ahly du Caire prend une sérieuse option sur la qualification en allant battre sur le score sans appel de 3-0 les Éthiopiens de Saint-Georges. En Coupe de la CAF, l'USM Alger, vainqueur de la Supercoupe d'Afrique, a ramené un nul précieux du Maroc devant le fils de Rabat. Les matchs retour auront lieu à la fin de cette semaine.
Du ballon rond, on passe au ballon ovale. L'Afrique du Sud, battue par l'Irlande pour son 3e match au Mondial de rugby.
C'était le match au sommet, un véritable choc des titans qui a tenu toutes ses promesses. Score final 13-8. Les Irlandais classés numéro 1 mondial marquent les esprits avec ce succès sur les tenants du titre sud-africain.
Du cyclisme pour terminer avec l'épilogue du Tour de Côte d'Ivoire.
Et c'est le local Abou Sanogo qui finit maillot jaune. L'Ivoirien de 28 ans a remporté 3 des 7 étapes de la course. Il devance au classement général les Burkinabés Moukaïla Rawende et Aruna Ilboudo. A noter que c'est le Malien Yaya Diallo qui a remporté la dernière étape courue entre Bongano et Azopé.
Merci Élisée.
Le monde.
aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les débats de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU sont très suivis au Niger. Malgré l'ajournement de l'intervention de la délégation nigérienne, les prises de parole de représentants de certains pays africains, notamment, ont eu de grands échos au sein de l'opinion publique, nous dit notre correspondant Agnamé Abdulrazak Idrissa. Il a recueilli quelques réactions de citoyens dans la capitale nigérienne.
Guinée, Togo, Burkina Faso et Mali, tels sont les pays dans les interventions desquels la plupart des Niaméens se sont retrouvés au vu du contexte national.
Leur discours est fantastique.
Maria Saleh, membre du mouvement des femmes engagées pour la souveraineté du Niger.
Leur discours tend vers la paix et l'unité africaine. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et chapeau pour eux. Ça apaise quand même le cœur. Moi, quand je les ai écoutés, je dis, ah, voilà les vrais Africains. Des Africains qui ont compris. En tant qu'Africaine, j'aimerais assez que les Africains ouvrent les yeux et changent de mentalité pour converger vers l'unité africaine.
Mahamadou Tchindo Issoufou, étudiant en géographie, a particulièrement apprécié les discours du président de la transition en Guinée et du ministre togolais des Affaires étrangères.
À ceux-là qui pensent que les Africains n'ont pas de destin, à ceux-là qui pensent que l'Afrique n'a pas de l'histoire, à ceux-là qui pensent que l'Afrique ne mérite pas d'être développée, à ceux-là qui pensent que les Africains sont manipulables, l'Africain mérite le respect. Nous, nous voulons des partenaires sincères, des partenaires dignes. Il faut que les Nations Unies là cessent de croire que les Africains n'ont pas un destin. À travers les actions dignes des patriotes africains, les Africains sont en train de poser des actes qui montrent qu'ils sont prêts pour la libération de notre continent.
Les passages des ministres maliens et burkinabés qui ont, dans leur intervention, défendu la cause du Niger privé de son droit à la tribune de l'ONU ont été des moments fort appréciés et salués. Chebou Chérif Amadou Tijani, étudiant.
Ce que nous tirons comme leçon aujourd'hui, c'est que les Africains ont véritablement compris la nécessité de se soutenir. Et je voudrais ici soutenir la création de l'Alliance des États du Sahel. Il y a un élan qui consiste à aller vers la véritable libéralisation de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui doit caractériser la relation entre ces puissances et nos États, qui sont qualifiés de façon injuste de tiers-monde, doit être une relation de partenariat sérieux où ils viennent. Ils gagnent et que nous aussi nous puissions en profiter de façon à ce que nous puissions être dans un élan de développement.
Les nouvelles autorités militaires du Niger ont dénoncé les agissements qu'elles qualifient de perfides du secrétaire général de l'ONU qui, selon elles, a fait obstacle à la pleine participation du pays aux travaux de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU, ce dont son porte-parole s'est défendu à l'agence France Presse. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et au Rwanda, les analystes politiques estiment que les pays africains doivent inventer leur propre mode de gouvernance au lieu de chercher à tout construire sur les modèles occidentaux non adaptés aux réalités africaines. De Kigali, Jean Damascène Namishimwe.
Les artisans du panafricanisme et les analystes politiques au Rwanda ont suivi avec intérêt les discours des chefs d'État africains à la tribune de l'ONU cette semaine. Ils déclarent avoir apprécié la façon dont certains de ces dirigeants ont dénoncé l'impérialisme occidental qui, selon eux, compromet le développement de l'Afrique. Pour l'analyste politique Ladislas Ngendahimana, les Africains doivent avoir le courage de prendre une distance vis-à-vis des puissances coloniales et adopter une démocratie à l'africaine, puisque selon lui, le modèle occidental n'a pas réussi à améliorer le sort des Africains.
Je pense que la démocratie c'est le choix du peuple, alors il faudrait donner la liberté aux citoyens des pays spécifiques pour faire le choix qui leur convient. Parce que parfois il y a l'Occident qui peut imposer son modèle de gouvernance au détriment des choix contextualisés de l'Afrique. Je pense que la démocratie africaine devrait répondre aux impératifs socio-économiques de la gouvernance africaine.
Le manque d'alternance au pouvoir est souvent évoqué comme signe de manque de démocratie sur le continent africain. Selon Mme Francine Havugimana, qui opère dans le secteur privé au Rwanda, l'alternance ne doit pas être une finalité en soi.
L'alternance en soi n'est pas synonyme de démocratie. Il faudrait plutôt se demander si le développement souhaité est réalisé et si oui, comment le sauvegarder. Est-ce que l'alternance peut nous aider? La démocratie doit tenir compte de ce qui est utile au peuple. La démocratie ne doit pas être une conception globale au service des intérêts particuliers. Elle doit plutôt être particulière à chaque pays, adaptée à chaque peuple et dire par exemple quel est le modèle qui vous convient en tant que peuple rwandais.
Pour l'ambassadeur Joseph Mutaboba, expert en diplomatie, la connaissance globalisante de l'Afrique de la part des Occidentaux est un tort qui ne permettra pas de résoudre des problèmes liés à la gouvernance en Afrique.
Il faut qu'il y ait une certaine connaissance du terrain. Les gens croient pouvoir résoudre les problèmes d'un pays ou d'une nation sans connaître ce pays ou sans connaître cette nation. Donc si vous ne connaissez pas les problèmes à fond, vous ne pouvez pas les résoudre comme il faut.
Ce point de vue est partagé par cet analyste politique Damien Mouzoun, qui affirme que les Africains auront de la peine à améliorer leur sort s'ils continuent de suivre les modèles occidentaux.
Ça fait que parfois on nous oublie et je crois qu'on ne va plus remettre le couteau dans la plaie pour parler de ce qui s'est passé ici et dans d'autres pays, les problèmes ethniques, les problèmes comme les coups d'État maintenant qui sont récurrents maintenant dans le continent. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités pour savoir que nos problèmes doivent être résolus de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur.
Ces analystes rwandais sont unanimes à dire qu'en plus de parler chacun pour son pays, les dirigeants africains doivent conjuguer leurs efforts afin de faire entendre leur voix sur le plan international. Jean Damasène Manichiné pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Tchad, la campagne agricole a été alarmante dans la province du Kanem. La sécheresse et le passage de criquets en août dernier ont fait des dégâts sur la production. Cela va engendrer un déficit en termes de céréales et occasionner des poches de famine. En déplacement dans la province du Kanem, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Angari, village situé à 7 km à l'ouest de la ville de Mao, dans le département du Kanem Centre, les sécheresses consécutives ajoutées aux ennemis des cultures ont rendu la population très vulnérable. Abakar Mohamed Chindobo, un cultivateur qui a tout perdu.
Dès le début de la campagne agricole, les criquets et les chenilles existent dans les champs. Il y a eu des oiseaux qui sont ajoutés à ces insectes. On a tenté de les chasser, mais en vain. Avec cette situation alarmante, la chérité de vie s'est fait sentir déjà. Le prix d'un courroux de l'huile est à 1000 francs et on n'a aucune activité génératrice de revenus. Nous sommes dépourvus de tous.
Pour le chef du village d'Angari, Abbas Seydi Idriss, c'est un phénomène général qui rend de plus en plus pauvres les ménages. Il lance un appel au gouvernement et ses partenaires à venir au secours de la population du Kanem.
Cette période naturelle a touché non seulement Ngari, mais toutes les localités environnantes, toutes les productions, que ce soit agricoles ou maraîchères, ont été totalement ravagées. Notre seul recours reste l'appui du gouvernement et des organisations non gouvernementales. Nous demandons des appuis en intrants, semences améliorées, des produits alimentaires et autres.
Le Kanem, naturellement, est une zone difficile pour pratiquer l'agriculture, a déclaré le délégué de l'agriculture du Kanem, Mui Ali Tayer. Toutefois, il rassure que son département fera un travail de ciblage avec des moyens conséquents pour soutenir les activités maraîchères. Selon lui, cette situation va avoir aussi des conséquences sur l'élevage.
Le tapis herbacé n'a pas été du tout pourvu cette année, donc ce qui veut dire que la crise pastorale également va s'installer d'ici peu de temps. Pour ce faire, nous remercions aujourd'hui l'ONGASF qui avait anticipé pour mettre en place des magasins d'aliments bétail et des banques céréales au niveau de 4 sous-préfectures. Donc c'est déjà un plan de contingence.
L'ingénieur agronome Mme Achta Youssouf Maher parle des mesures préventives à prendre pour l'avenir.
Les mesures préventives consistent à identifier les larves de ces criquets-là bien avant leur positionnement exact et essayer de les détruire étant des larves pour qu'ils ne puissent pas se développer après. Le problème, c'est que la lutte contre les criquets ne peut pas se faire à l'échelle d'un village. Ça se fait en collaboration avec tous les organismes comme l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, il y a les gens de protection des végétaux, il y a la FAO. Tout cela doit travailler pour prévenir ou bien attirer l'attention de ces villageois-là sur la population des criquets à venir, mais pas que laisser les choses arriver à ce stade-là.
L'apparition de ces ennemis des cultures dont la dernière invasion remonte à plus de 15 ans dans la zone a anéanti les efforts des agriculteurs, les laissant ainsi dans le désarroi total. André Godomadjinga, Angari, département du Kanem Centre pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, le gouvernement sanctionne les entreprises défaillantes au terme de l'évaluation de l'état d'avancement des projets routiers. D'après le ministre des Travaux publics, les chantiers routiers piétinent parce que plusieurs entreprises n'ont aucune surface financière pour la réalisation des travaux et présentent de ce fait des cautions virtuelles. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le gouvernement a prévu construire ou reconstruire 700 km de route cette année. Mais au 31 août 2023, seuls 9 des 74 projets routiers sont achevés et livrés. En cause, la faible performance des entreprises et les limites financières de celles-ci. Emmanuel Ganoundjoumessi, ministre des Travaux publics.
À partir du moment où les gens ont pas des manœuvres frauduleuses diverses, réussissent à passer sur les mailles, il faut en tirer les enseignements. J'ai interpellé tous les membres de commission, passation de marché, pour davantage plus de vigilance. L'une des solutions est la catégorisation des entreprises. Et il faut vérifier les déclarations. Et l'une des choses que nous dénonçons et que nous avons entrepris de réprimer, c'est la question des cautions.
Au terme d'une session de la revue des projets routiers, le ministre des Travaux publics a résilié le contrat de 4 entreprises. 2 autres ont été mises en demeure et certaines sommées de clôturer les travaux. Une fois encore, Emmanuel Ganoundjoumessi, ministre des Travaux publics.
Quand la résiliation est prononcée, vous avez 2 ans au moins à ne plus vous présenter à la commande publique. Si l'intéressé a perçu une avance de démarrage donnée, il doit pouvoir saisir sa caution pour que l'État rentre dans ce qui lui est dit.
Toutefois, certaines entreprises enregistrent des avancées dans la conduite des travaux, comme sur le linéaire de 60 km de l'autoroute entre Yaoundé et Douala, en dépit de quelques difficultés. Hermit Tarek, chef de la mission de contrôle de l'autoroute Yaoundé-Douala.
Il s'agit essentiellement le paiement des décomptes qui est demandé par l'entreprise et les missions de contrôle, la contractualisation de la Bougénie, l'assistant géotechnique au maître d'ouvrage et de cette Tunisie pour la continuité de son contrat. L'autre contrat dont il s'agit de l'indemnisation donc des terrains que ces deux jonctions ont traversés, malgré que le décret pour l'indemnisation il est toujours en circuit et actuellement il est au niveau de la présidence. Nous espérons donc débloquer cette situation au plus vite afin de nous permettre d'éviter donc tout problème avec les populations riveraines qui empêcheront éventuellement l'avancement des travaux.
Certains projets d'axes routiers font face aux aléas sécuritaires dans la région de l'extrême nord à cause des exactions de Boko Haram et en zone anglophone consécutif au conflit entre les séparatistes et l'armée. Mais des mesures sont prises pour que les travaux, les équipements et le personnel soient mis en sécurité, rassure le ministre camerounais des Travaux publics, Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.